Alors, on va poursuivre ce soir notre étude de la version des 70. Nous avions vu la dernière fois qu'il y avait une différence importante en ce qui concerne le canon de la Bible hébraïque et le canon de la Bible grecque, la Bible des Septante. Qu'il y avait dans la Bible des Septante un certain nombre de livres que l'on qualifie d'apocryphes, qui ne se trouvent pas contenus dans la Bible hébraïque et qui sont déclarés apocryphes précisément pour cette raison. Alors, la question qui se pose est de savoir d'où vient cette différence de canon, d'où vient de ce qu'il y ait des livres qui ont été ajoutés au canon grec qui ne se trouvent pas dans la Bible, dans la Bible originale. Alors, il y a différentes hypothèses pour répondre à cette question. La première hypothèse, c'est que les livres dits apocryphes ont été écrits directement en grec, dans la diaspora, et essentiellement donc en Égypte, à Alexandrie, et ont été ajoutés donc à la Bible grecque au moment où celle-ci a été traduite. Mais il y a plus récemment, ça c'était un peu la version habituelle, la version où il y a, classique, il y en a une autre depuis quelques années qui a été émise par un certain nombre d'autres savants qui pensent que les livres dits apocryphes ont d'abord été écrits et composés en Israël avant de passer en Égypte. Ce qui a amené cette nouvelle hypothèse, c'est le fait que dans les manuscrits de la Mer Morte, par exemple, et plus précisément à Masada, parmi la masse des documents qui ont été découverts à Masada, on a mis en évidence un certain nombre de fragments de textes des apocryphes, ce qui laisse à penser que les apocryphes étaient connus en Israël, mais surtout que l'on a retrouvé des livres apocryphes, à Masada en particulier, écrits en hébreu, qui sont l'original donc, et on sait maintenant que par exemple un livre comme l'Ecclésiastique, ou bien qu'on appelle encore le rouleau de Ben Sira, que l'on ne connaissait qu'en grec jusqu'en 1964, depuis la découverte de Qumran, les fouilles de Masada, on sait que l'original de Ben Sira était écrit en hébreu parce qu'on a trouvé un rouleau quasiment intact de Ben Sira en hébreu à Masada. Alors, ça nous amène à revoir justement cette question des apocryphes. Les traductions grecques des livres apocryphes auraient été peut-être effectuées en Égypte, mais peut-être aussi en Israël, puisque en Israël même, à Qumran en particulier, il y a des fragments des apocryphes en grec. Et finalement, c'est toute la question de la traduction des Septante qui est remise en question. Est-ce que, si finalement des livres apocryphes ont été traduits en Israël et de là sont passés en Égypte, pourquoi est-ce que finalement les livres canoniques n'auraient pas été non plus traduits en grec en Israël et de là seraient passés en Égypte? Voyez-vous, c'est la question qu'on est amené à se poser. Là, finalement, on n'a pas de réponse. Pour l'heure, on ne peut pas tranché d'une manière certaine, mais ce que l'on peut dire, ce qui semble la chose la plus probable, c'est que les grandes lignes de la lettre d'Aristée, dont nous avons parlé la dernière fois, sur laquelle le roi Ptolémée Philadelphe, je vous rappelle, a fait traduire la Bible en grec par des savants venus d'Israël, a un aspect légendaire, nous en avons parlé aussi la dernière fois, mais le fond de la lettre est vraisemblablement historique. Alors, peut-être y avait-il des livres qui ont été traduits en Israël. En tout cas, ce qui semble probable, c'est que pour ce qui est de la Torah, elle a été traduite en Égypte. Et par conséquent, la lettre d'Aristas semble évoquer beaucoup plus, si vous voulez, ce qui a été le sort de la Torah. On verra dans quelques instants que pour les autres parties de la Bible, vraisemblablement, la lettre d'Aristas n'est plus tout à fait exacte. De ce fait, n'est-ce pas, parce que les Juifs d'Alexandrie avaient reçu certainement avant l'arrivée des savants juifs en Égypte, d'Eretz Israël, déjà des livres apocryphes traduits en grec, mais ils les ont ajoutés vraisemblablement à la traduction qui a été effectuée par les savants grecs, d'où justement l'existence d'un deuxième canon. Vraisemblablement, c'est comme ça que les choses ont dû se passer. En tout cas, c'est dans l'état actuel des recherches l'hypothèse la plus probable. Alors, de ce fait, l'ordre des livres dans la Bible des Septante est différent de ce qu'il y a dans la Bible hébraïque. La Bible hébraïque comprend trois divisions qui correspondent aux trois étapes de la canonisation des livres de la Bible, la Torah, les cinq livres de Moïse, les prophètes, qui se divisent eux-mêmes en ce qu'on appelle les premiers prophètes et les derniers prophètes. Les premiers prophètes sont Josué jusqu'à deuxième livre des rois, et les seconds prophètes, les derniers prophètes, sont les prophètes tels qu'on les connaît, Ésaïe jusqu'à Malachi. Et puis ensuite, la Bible contient les écrits, ce qu'on appelle les écrits, Ketuvim en hébreu. C'est tous les autres livres. Jésus connaissait la Bible de cette manière-là. Par exemple, nous lisons dans le livre de Luc, dans l'Évangile de Luc, que le soir de la résurrection, quand Jésus est apparu au milieu de ses disciples, il leur expliqua dans la Torah de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, que le Christ devait souffrir, être et ressuscité, et que la repentance et le pardon des péchés devaient être prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc il leur expliqua dans la loi de Moïse, la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est-à-dire les écrits. Finalement, quand on parlait des psaumes, aussi dans le Talmud, on entend tous les autres livres qui appartiennent à cette troisième étape du canon et que l'on appelle plus généralement les écrits. Par contre, en ce qui concerne la Bible grecque, la division est tout à fait différente. Nous trouvons d'une part les livres légaux, la Torah. Puis ensuite, les livres historiques, qui correspondent aux premiers prophètes, plus les livres des chroniques, les livres d'Ezra et Néhémie, le livre d'Esther, qui en principe, dans le canon hébraïque, sont considérés comme faisant partie des écrits. Puis ensuite, on trouve les livres poétiques, Job, Psaume, Proverbe, plus les livres apocryphes de la sagesse, qui ne se trouvent pas dans la Bible hébraïque, ecclésiastique, sagesse de Salomon, etc. Et puis les derniers livres apocryphes, Maccabée, les deux premiers livres des Maccabées, les troisième et quatrième livres des Maccabées ne se trouvent pas dans la version des Septante. Et finalement, cette division de la Bible grecque, cet ordre, cette ordonnance des livres dans la Bible grecque a été adoptée ensuite par la Vulgate de Saint Jérôme, quand Jérôme a traduit la Bible en latin au IVe siècle. Et par la Vulgate, finalement, c'est devenu l'ordre standard de la plupart des Bibles chrétiennes. Jusqu'à une époque récente, toutes les Bibles chrétiennes gardaient l'ordre de la Bible grecque. Ce n'est que depuis quelques années qu'un certain nombre de traductions modernes, par exemple la Taube ou bien la version en français courant, sont revenues à l'ordre hébraïque. Alors, le nom des livres aussi était différent. Et, par exemple, les livres hébraïques, les titres des livres hébraïques sont toujours ceux du premier mot. Le premier livre s'appelle Bereshit, au commencement. Le deuxième, Shmot, les noms. Voici les noms des Israélites qui descendirent en Égypte sous la direction de Moïse. Le troisième, Vaïkra, il crie, n'est-ce pas ? L'Éternel parla à Moïse et lui dit, crie aux enfants d'Israël. Quatrième livre, Bamidbar, dans le désert, l'Éternel parla à Moïse, dans le désert depuis le mont Sinaï. Et puis quatrième, Dvarim, les paroles. Voici les paroles que l'Éternel adressa par Moïse aux enfants d'Israël. Or, la Bible grecque a donné des noms tout à fait différents. Genesis, la Genèse, Exotos, l'Exode, etc., etc. Deutéronomos, la deuxième loi, qui s'appelle le livre des paroles dans la version hébraïque. Et pour cette même raison, parce que la Vulgate a repris aussi ces noms, dans les Bibles chrétiennes, n'est-ce pas, les livres sont connus sous le nom qu'ils ont dans la Bible grecque et non pas celui qu'ils ont dans la Bible hébraïque. Et même les versions modernes auxquelles je faisais allusion, qui sont revenues à l'ordre de la Bible hébraïque, n'ont pas repris les noms de la Bible hébraïque et ont gardé les noms de la Bible grecque. Maintenant, il est absolument certain que la version des Septante a été effectuée par des gens qui étaient d'origine juive. Ça, c'est absolument évident pour chaque livre de la traduction des Septante. Deuxième certitude, cette traduction s'est faite en Égypte parce que le vocabulaire de la Bible grecque est le vocabulaire courant de la ville d'Alexandrie, telle qu'on la connaissait à cette époque-là. Donc là, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet-là. Troisième certitude, il y a eu plusieurs traducteurs qui ont travaillé à cette version des Septante. Donc vous voyez que pratiquement, on arrive à recouper par une critique interne de la version des Septante les grandes affirmations de la lettre d'Aristas. Je résume ces affirmations, on en a déjà parlé. Donc, c'est au deuxième siècle, n'est-ce pas, que sous le troisième siècle, sous Ptolémée Philadelphe, 285-247, 72 savants sont venus à Alexandrie pour traduire la Bible en grec, afin qu'elle figure, que le livre saint des Juifs figure dans la bibliothèque d'Alexandrie, qui, selon l'ambition du roi Ptolémée Philadelphe, devait contenir tout le savoir de l'humanité. Tout ce qui avait été écrit dans toute l'humanité, dans tout le monde connu d'alors, devait être rassemblé dans cette immense bibliothèque qu'il avait créée à Alexandrie. Bon, ce serait impensable aujourd'hui, bien sûr, encore que maintenant, peut-être avec les ordinateurs, demain, ce sera peut-être envisageable, mais à cette époque-là, l'édition était beaucoup plus restreinte qu'aujourd'hui, c'était possible de l'imaginer. Bon, selon la lettre d'Aristas, les 72 savants, parce qu'ils étaient finalement 72, auraient été reçus somptueusement, il y aurait eu des fêtes, festins, etc., et ils auraient terminé leur travail en 72 jours avant de retourner en Israël, après avoir été enfermés, comme je l'ai dit la dernière fois, dans 72 cellules séparées. Très exactement, selon une autre source, la source d'Épidone, il y aurait eu 36 couples de savants qui auraient été enfermés, donc deux par deux, dans des cellules. Et quand on a comparé les 36 versions différentes, elles étaient en tout point semblables à la lettre près. Bon, ça c'est l'aspect légendaire des choses, bien entendu. Mais mis à part justement cet aspect folklorique, les grandes lignes étaient certainement vraies. Le but évidemment, c'était d'insister sur le fait que cette Bible était aussi inspirée que la Bible hébraïque. Mais si on laisse de côté cet aspect légendaire, le reste a tout lieu d'être historique. Le roi Ptolémée, en son temps, s'intéressait beaucoup aux cultures étrangères. Mais finalement, est-ce que le roi Ptolémée a été le seul à prendre cette initiative ? Là, c'est aussi un peu discutable. Si vous voulez. Il y avait à Alexandrie une communauté juive très importante, on le sait, qui avait tendance de plus en plus à oublier sa langue natale, l'hébreu. Et est-ce que finalement l'initiative du roi Ptolémée ne lui a pas été suggérée par les juifs eux-mêmes, les juifs d'Alexandrie, qui finalement se sont dit qu'il aurait été très commode d'avoir une Bible dans leur langue. Bon, il est vraisemblable que c'est le roi Ptolémée Philadelphe qui a pris l'initiative de faire venir des savants depuis Eretz Israël pour traduire cette Bible. Mais peut-être que lui n'a pas eu l'initiative de la chose. Peut-être que cette initiative lui a été suggérée par justement des notables juifs qui avaient envie d'avoir une Bible aussi dans leur langue, en disant au roi que c'était un ouvrage qui avait sa place dans la bibliothèque d'Alexandrie, que c'était ça cadrait très bien avec son projet. Je ne pense pas que le roi Philadelphe lui-même, n'est-ce pas, avait connaissance de de cet héritage littéraire des Juifs suffisamment pour en prendre lui-même l'initiative. Mais les contacts qu'il avait avec les notables juifs l'a amené donc à prendre, à faire cette démarche. En tout cas, il y a un autre point tout à fait aussi intéressant, c'est que l'origine juive du livre d'Esther est totalement certaine, par justement la version des Septante, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il y a des textes, comme nous l'avons vu la dernière fois, dans le livre d'Esther grec, qui ne se trouvent pas dans le livre d'Esther hébreu. Donc il y a manifestement deux récits d'Esther différents, un qui a été amplifié donc, par les gens d'Alexandrie, mais qui est parti du texte, d'un texte plus ancien, et qui vraisemblablement, lui, était un texte juif. L'essentiel de cette version a été fait en Égypte, ça c'est sûr, mais est-ce que tout a été fait en Égypte, ça c'est certainement beaucoup plus discutable. Alors, une autre question qui se pose est celle-ci. Quels étaient les documents sur lesquels les traducteurs de la version des Septante ont travaillé? Nous avons vu la dernière fois qu'il y a des différences notables aussi dans certains textes, ce qu'on appelle, les spécialistes appellent des leçons différentes. Alors, le mot leçon ici n'a rien à voir avec ce que nous appelons une leçon. Une leçon, c'est en critique, en basse critique, en critique textuelle, n'est-ce pas? C'est une, comment dirais-je, c'est une forme, c'est une phrase différente, n'est-ce pas? Quand on dit il y a deux leçons différentes, ça veut dire il y a deux phrases différentes, qui sont proches les unes des autres, mais qui sont quand même différentes. Il y a une différence, il y a une divergence là entre deux versions différentes, si vous voulez. Alors, la très grande liberté du texte grec par rapport au texte hébraïque nous pose la question de savoir est-ce que les traducteurs des Septante avaient à leur disposition le texte massorétique par rapport auquel, justement, ils ont pris des libertés, ou bien est-ce qu'ils avaient à leur disposition un texte différent. Ça, c'est une question de critique assez importante. En fait, il semble bien que le texte original des Septante était un texte qui découlait de la Massorah. Bon, je ne vais pas vous faire toute la démonstration parce que ce serait trop fastidieux, mais on passe pour se faire, si vous voulez vous en dire un petit peu la méthode, par les Targum, c'est-à-dire les versions araméennes de la Bible. On aura l'occasion de reparler des Targum. Or, les Targum sont une traduction-interprétation. Mais ils partent du texte massorétique. Seulement, quand on les lit, quand on arrive, si j'ose dire, au produit fini, il y a un certain nombre de divergences très importantes. Mais qui ne sont pas, si vous voulez, obligatoirement étrangères au texte. Qui sont une manière de comprendre le texte. Et il y a, depuis donc une période très ancienne dans le judaïsme, un processus de targumisation de la Bible, c'est-à-dire de traduction-explication. Vous avez peut-être eu entre vos mains, certains d'entre vous, la version de Kuhn du Nouveau Testament expliquée là. C'était pas vraiment une traduction, c'était une transcription du Nouveau Testament. C'est-à-dire c'était pas une traduction au sens propre du terme. Comment ? Parole vivante, oui. C'était pas une traduction au sens propre du terme, c'était une interprétation qui s'éloignait du texte, mais qui ne le trahit, qui en tout cas ne voulait être une traduction qui ne le trahissait pas. Finalement, ce qu'il a essayé de faire, plus ou moins avec plus ou moins de bonheur, à mon avis, c'est ce que les targumistes ont fait. Ça. Alors, est-ce que finalement, la version des Septante ne serait pas la plus ancienne, le plus ancien témoignage d'une targumisation qui aurait existé avant les targums araméens qui sont aujourd'hui en notre possession? Ça veut dire que les savants d'Alexandrie auraient eu le texte massorétique à leur disposition, mais l'auraient parfois modifié pour le rendre en grec de la manière dont eux le comprenaient. Donc, si vous voulez, une certaine compréhension de l'écriture que l'on pouvait avoir à cette époque-là. Si c'était le cas, ce serait très intéressant, parce que justement, ça nous montrerait comment des gens qui étaient plus proches, si vous voulez, des origines du texte biblique le comprennent. Je vais donner un exemple qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, par exemple. C'est celui que j'ai évoqué d'ailleurs la dernière fois. Le texte d'Ésaïe 7, voici la Vierge, voici la Alma, très exactement, dit le texte biblique, deviendra enceinte, elle enfantera un fils qu'on appellera Emmanuel. Bon. Le mot Alma n'est pas obligatoirement, ne désigne pas obligatoirement une vierge. Enfin, ça peut être, c'est une jeune femme, par exemple, les Alamotes, vous savez, il y a des psaumes qui sont à être chantés à l'Alamote, dit le texte hébreu, ça veut dire par des jeunes filles, hein, des chœurs de jeunes filles vraisemblablement, qui chantaient certains psaumes. Bon, différents textes, aussi dans le psaume 45, les Alamotes sont parmi tes compagnes, vous savez, quand la reine est introduite dans le palais du roi. Bon, à la limite, si vous voulez, c'est pas obligatoirement une vierge. Les Septante ont traduit le mot Alma par Parthénos, une vierge. Là, il n'y a absolument aucun doute possible. Le grec, dans ce domaine-là, est beaucoup plus précis que l'hébreu. Et le Nouveau Testament, quand il cite ce texte, quand Matthieu cite ce texte, le cite d'après la version des Septante, en disant la Parthénos, la vierge. Bon, voilà un exemple, si vous voulez, d'une targumisation. Ça veut dire un texte qui est vague, dans l'original hébreu, a été compris de telle manière, dès les origines, et finalement, si vous voulez, il y a une espèce de transmission orale qui se fait, et puis finalement, qui se cristallise, soit dans un texte grec, comme c'est le cas ici, soit dans un texte araméen, un petit peu plus tard, souvent dans l'araméen, d'ailleurs. N'est-ce pas ? Alors, il y a, par exemple, bien entendu aussi des familles de documents divers du texte des Septante. Jusqu'à la découverte des manuscrits de la Mer Morte, la Bible grecque était le manuscrit le plus ancien de la Bible qu'on connaissait. Et il était plus ancien que les manuscrits en hébreu qu'on avait jusque maintenant. C'était en particulier le cas de ce qu'on appelle les trois onciaux, magnifiques... écrits, n'est-ce pas, qui sont écrits en majuscules, d'où le nom de Onsio, qui sont le Vaticanus, le Chisianus et l'Alexandrinus. Ce sont donc des documents qui aussi ont donné lieu, ont été copiés de multiples fois, donc automatiquement vous avez des variantes. Vous avez des variantes d'un texte à l'autre. Bon, il y a eu un travail de critique qui a été fait, évidemment, pour reconstituer ce qu'est le texte original des Septante. Ça a été fait en 1663 par des savants d'Utrecht, en Hollande. Et on appelle justement aujourd'hui ce texte le texte d'Utrecht. De la même manière qu'on parle de la Bible de Stuttgart pour l'Ancien Testament, on parlera de la Bible d'Utrecht pour ce qui est de... Je veux dire, pour le texte hébreu, on parlera de la Bible d'Utrecht pour ce qui est du texte grec, du texte des Septante. Et finalement, s'il est relativement facile de reconstituer le texte original de l'hébreu, il est beaucoup plus difficile de reconstituer le texte original du grec. Et là, finalement, les savants d'Utrecht ont fait ce travail, mais en disant qu'ils n'étaient pas du tout sûrs d'eux. Et ce travail est à poursuivre pour l'heure, n'est-ce pas ? Si on peut progresser un peu, notamment grâce aux découvertes des manuscrits de la Mer Morte, le progrès est quand même très très limité et le progrès est très très lent. Pourquoi ? Pour une bonne et simple raison, c'est que le texte grec n'a pas eu la même autorité que le texte hébreu et par conséquent n'a pas fait l'objet de ce qui s'est produit pour le texte hébreu en 95 à Yavné, c'est-à-dire que les massorètes ont reconstitué eux-mêmes, ont fait le travail, si vous voulez, d'une critique du texte pour éliminer toutes les variantes qui étaient fausses et pour reconstituer un texte qui soit le plus proche possible du texte original. En grec, il n'y a pas eu ce travail. Parce que le texte grec n'avait pas la même autorité, n'était pas considéré aussi sain que ne l'était le texte hébreu. Donc on a laissé un peu les choses aller dans toutes les directions. Alors ça, c'est une première difficulté. Ça veut dire que même quand on prend un texte qui a été aussi travaillé, aussi élaboré que le codex d'Utrecht, n'est-ce pas ? Eh bien, on n'est pas sûr de soi. On n'est pas sûr de soi en ce qui concerne le grec. Ensuite, la version des Septante n'est pas la seule version grecque. Nous verrons qu'il y a d'autres versions grecques également qui sont plus récentes. Tant et si bien que là aussi, ça complique encore les choses. Et ça complique les choses d'autant plus que un certain nombre de manuscrits anciens de la version des Septante ont parfois comblé des lacunes de certains textes en adoptant, si vous voulez, dans leur édition, des textes qui venaient d'autres traductions que de la version des Septante. Par exemple, c'est le cas pour le livre du prophète Daniel. Dans même un texte comme dans les grands onciaux ou dans la plupart des manuscrits de la Septante qu'on a, pour une raison qui nous échappe, vraisemblablement parce que ceux qui ont copié les textes qui nous sont parvenus, semble-t-il, n'avaient pas à leur disposition le livre de Daniel qui avait été traduit originellement par les Septante. Pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est comme ça, on constate le fait, point. Donc, on ne sait absolument pas à quoi ressemblait le texte de Daniel tel qu'il est sorti des mains des Septante. Bon, c'est une autre difficulté. Ce qui veut dire que, de toute manière, nous avons affaire à un texte qui est moins sûr, infiniment moins sûr, que le texte hébreu. Bon, la Guénisa du Caire, dont nous parlons ces temps-ci en histoire d'Israël, connaissait la version des Septante, et il y a quelques fragments de la version des Septante, justement, dans la Guénisa du Caire. Et, en fin de compte, il n'y a pas ce qu'il y a en hébreu, ça veut dire une seule tradition qui va se perpétrer pendant des générations, qui va être la source essentielle. Finalement, quand même, malgré ces lacunes, on constate qu'il y a une grande unité de traduction en ce qui concerne la version des Septante. Et un document qui nous permet peut-être justement de faire ce travail de critique textuelle, c'est le Nouveau Testament. Parce que très souvent, le Nouveau Testament, quand il cite l'Ancien Testament, le fait à partir de la version des Septante. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est souvent le cas. Parce que la version des Septante, à l'époque où l'Évangile a été prêché par Paul et par les autres apôtres dans le monde de la diaspora, dans le monde latin, les Juifs de la diaspora, que ce soit à Rome, que ce soit à Corinthe, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Thessalonique, etc., ces gens-là, les Juifs de ces pays, lisaient la Bible, le Shabbat, dans la version des Septante. Si bien que, tout naturellement, les chrétiens non-juifs, les chrétiens de langue grecque, ont fait de la version des Septante leur Bible. Et les manuscrits qui nous sont parvenus d'après l'ère chrétienne, les manuscrits de la version des Septante, comprennent la Bible entière, Ancien et Nouveau Testament, ce qui n'est pas le cas, évidemment, des documents hébraïques. Parce que, très vite, n'est-ce pas, Ancien et Nouveau Testament a fait un tout. Et au Moyen-Âge, Ancien et Nouveau Testament, dans les Bibles grecques, si vous prenez le Codex Vaticanus, par exemple, qui est un des plus importants manuscrits grecs de la version des Septante, il comprend l'Ancien et le Nouveau Testament à la suite. Il n'y a pas deux documents différents pour cela. Alors, finalement, les nombreuses variantes que nous trouvons dans les différents manuscrits marquent des étapes du développement, justement, de la tradition des 70. Alors, il y a une multiplicité très grande de documents de la Septante après le christianisme, pour les raisons que j'ai expliquées. Et nous avons infiniment plus de documents grecs de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament que nous n'en avons de l'Ancien Testament hébreu, pour cette raison-là, tout simplement. Ajoutons ensuite que le judaïsme ayant été persécuté, beaucoup de documents de la Bible hébraïque ont été détruits par les chrétiens eux-mêmes au Moyen-Âge ou pendant les périodes qui ont suivi l'Inquisition, etc. Il est donc normal qu'on trouve beaucoup plus de documents grecs de l'Ancien Testament que de documents hébraïques de l'Ancien Testament. Au troisième et quatrième siècle, il y a un des pères de l'Église qui a fait un travail important à partir justement de la Bible grecque, c'est Origène. Origène, qui était évêque de Césarée, à Alexandrie, je confonds avec Eusèbe de Césarée, Origène qui était à Alexandrie justement, et qui avait accès directement avec les sources anciennes qui étaient à sa disposition. Et Origène commence par dire que les Juifs d'Alexandrie, à cette époque-là, complétaient la lecture de la version des Septante par le texte hébraïque. Et il dit que, en fin de compte, l'origine des Septante serait ce besoin qu'avaient eu les Juifs d'avoir une Bible en grec. Ça, c'est intéressant, ce témoignage d'Origène, qui semble contredire justement la lettre d'Aristas, mais qui la complète, comme on l'a vu tout à l'heure. Et autre affirmation d'Origène qui est tout à fait intéressante, c'est que un certain nombre de mots de l'Ancien Testament hébreu n'ont pas été traduits par les traducteurs de la version des Septante parce qu'ils ne les ont pas compris. Et par conséquent, ils les ont intégrés tels quels dans leur traduction sans les traduire. Peut-être que là, Origène est allé un peu loin. Ce que l'on peut penser peut-être, c'est que si vraiment ces gens étaient originaires des Rêtes d'Israël, ils comprenaient fort bien les textes de la Torah, mais ils n'ont pas trouvé d'équivalent dans le grec pour traduire. Et que ce faisant, ils ont intégré les mots hébreux directement dans le grec. Vous avez parfois dans le Nouveau Testament des choses un peu semblables. Les évangélistes vont garder dans le texte grec un certain nombre de mots hébreux, souvent les traduisant, parfois sans les traduire. Je prends par exemple le mot « Amen », le mot « Alléluia » ne sera jamais traduit, même par les évangélistes. Ce sont des mots hébreux qui finalement passent en grec tel quel. Parfois ils traduisent, par exemple, la parole de Jésus sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est cité en hébreu, puis ensuite est traduit en grec. L'expression, n'est-ce pas, l'exclamation de Marie de Magdala le jour de la résurrection, quand elle reconnaît Jésus, « Rabouni » est gardée telle qu'elle. Mais Jean ajoute « ce qui signifie maître ». La femme samaritaine déclare « nous savons que le Messie doit venir ». Et Jean ajoute « ce qui signifie Christ » pour les Grecs. Donc il y a le mot hébreu qui est gardé, puis ensuite il y a le mot grec. Bien, il semble que finalement les traducteurs des Septante ont fait un petit peu le même travail. Chose intéressante aussi de noter, c'est que les évangélistes, notamment au niveau des évangiles, calquent leur style sur le style des Septante, sur le plan du récit. Déjà de leur temps, c'était pas comme ça qu'on s'exprimait dans la vie courante. Et même dans la littérature de l'époque, c'était, si on peut dire, déjà un style un peu désuet. C'était le style des Septante. Pourquoi ont-ils adopté ce style? Parce qu'il était lui-même calqué sur le style de l'Ancien Testament hébreu. Donc, si vous voulez, on revenait aux origines par le biais, justement, de la version des Septante, qui était, en quelque sorte, pour les évangélistes, le point de passage obligé. Bien, selon un savant qui s'appelle Assiété, il y aurait différentes étapes, finalement, dans la traduction des Septante. Par exemple, la Torah est le texte le plus ancien. Déjà, le fils de Ben Sira, au IIe siècle, connaissait ce texte, et il cite également les prophètes. Ce qui veut dire que, dès le IIe siècle, dès le milieu du IIe siècle, la version des Septante était répandue au moins en ce qui concernait la Torah et en ce qui concernait les prophètes, mais peut-être pas en ce qui concerne les écrits. Peut-être, nous dit Siété, qu'à cette époque-là encore, le processus de traduction était en cours et qu'on n'avait pas encore achevé de traduire les écrits, parce qu'on est encore très proche du début du travail. Et on sait, par exemple, que même avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, il faut des mois et des mois pour faire une traduction de la Bible. Et l'idée qu'on trouve dans la lettre d'Aristas, que les choses se sont faites en 72 jours, c'est légendaire. Bon, et bien évident qu'avec les moyens dont on disposait à l'époque, la version des Septante a dû prendre du temps. Alors, certainement, bon, on a fait au plus pressé la Torah, puis les prophètes, puis ensuite le reste quand on a pu. Et par qui on a pu. Et finalement, Ben Sira, au IIe siècle, ne semble pas connaître les écrits. Néanmoins, c'est certainement peu après cette époque-là, sinon à cette époque-là, que les derniers livres de la version des Septante ont été traduits. On peut penser, n'est-ce pas, que la fin de la traduction des Septante, selon CT, se situe vers 170-130 avant Jésus-Christ. Le dernier livre, ou un des derniers livres en tout cas, qui aurait été traduit, selon CT toujours, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Donc, si vous voulez, 400 ans après la fin de... après le livre lui-même, l'original hébreu. C'est quand même quelque chose d'important. Le travail des Septante, on peut dire que ce fut le plus grand travail de traduction du monde antique. Un travail gigantesque, un travail colossal. C'était la première fois qu'on entreprenait un travail de cette importance, et les traducteurs ont dû affronter de très nombreux problèmes. Et un des moindres, un de ces problèmes, et non des moindres, fut le passage d'une langue asiatique, sémite, comme l'hébreu, à une langue indo-européenne, comme était le grec. Car c'était non seulement le passage d'une langue à l'autre, mais c'était le passage d'un univers culturel à un autre univers culturel. Pour nous, quand nous savons, par exemple, à traduire un texte de l'anglais, ou de l'allemand, ou même du russe, qui est une langue beaucoup plus loin de la nôtre, ça ne pose pas de problème majeur. Pourquoi ? Parce que c'est le même univers culturel. Mais là, on a vraiment deux mondes différents. On passe de l'Orient à l'Occident. Je prends un exemple parmi d'autres. La grammaire hébraïque ne connaît pas le temps. Le passé, le présent, le futur, ça n'existe pas. Bon. Le grec a des formes verbales très diverses, très subtiles, un petit peu comme le français, avec des futurs antérieurs, des plus que parfaits, des conditionnels, et tout un ensemble de nuances que l'hébreu ignore absolument. Par contre, l'hébreu a des formes verbales pour désigner, les actants, ceux qui font l'action, si vous voulez, leur situation. Bon, mais ça, vous n'avez pas en grec, bien sûr, vous n'avez pas non plus dans nos langues. Finalement, quand nous traduisons depuis l'hébreu, en français, par exemple, nous nous heurtons au même problème que celui auquel se sont heurtés les Septante. Seulement, il y a des antécédents pour nous. Vous comprenez ? On a justement à bénéficier du travail des Septante. Ils ont fait un débroussaillage, même si c'était une langue qui est différente de la nôtre. Mais c'était une langue qui était beaucoup plus proche de la nôtre, parce que nos langues occidentales sont toutes issues du grec. Hein ? Et par conséquent, on a pu à refaire le travail qu'ils ont fait. Eux, ils étaient vraiment des pionniers en la matière. Alors, il y avait soit pour les Septante le piège de tomber dans un mot à mot servile, appelle la concordance formelle, ou bien une traduction totalement libre. Alors, quand on lit finalement le texte des Septante et qu'on le compare au texte hébraïque, on va dire, finalement, les Septante ont adopté la version totalement libre. Ce n'est pas absolument sûr. Et finalement, on est revenu sur une position moyenne aujourd'hui en disant, finalement, les Septante ont fait ce que font aujourd'hui la plupart des traducteurs de la Bible, en tout cas jusqu'à notre époque. Ça veut dire qu'ils adoptent une traduction moyenne, ni servile mot à mot, ni totalement libre. C'est finalement ce qui tombe sous le coup, sous l'évidence. Et finalement, les traducteurs de la Septante ont fait un travail extrêmement sérieux à ce niveau-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas de livre de Daniel qui a été traduit par les... qui nous soit parvenu, en tout cas, des Septante. Nous ne savons pas véritablement pourquoi, mais... un certain nombre de savants pensent que les Septante ne reconnaissaient pas Daniel comme inspiré. Bon, ça, c'est l'argument en silencio, c'est toujours délicat de tirer des conclusions à partir de quelque chose qui manque d'un silence. Bon, enfin, c'est comme ça. Manque aussi parfois certains textes de Samuel et des rois, ainsi que la première partie de Jérémie 29 et de Jérémie 52. Pourquoi ? Peut-être que leur texte original ne le mentionnait pas. Peut-être que le travail qu'ils ont fait à ce niveau-là a été perdu. On peut tout imaginer, finalement. Le fait qu'il y ait eu différents traducteurs nous apparaît précisément dans la pluralité de traductions qui apparaît dans les livres, au niveau du vocabulaire, au niveau du style, au niveau aussi de la compétence. Il est clair que certains traducteurs étaient plus compétents que d'autres. D'ailleurs, quand on fait des versions modernes, on retrouve le même genre de problème. Si vous prenez par exemple la Taube, c'est très clair, vous avez des différences de style au niveau de l'Ancien Testament en particulier, qui sont considérables. On voit qu'on avait affaire à des traducteurs qui avaient des talents assez divers, disons. Bon, c'est ce qu'on constate aussi au niveau des Septante. Maintenant, les Septante ont dû traduire un certain nombre de notions qui n'existaient pas en grec. Par exemple, la notion Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées, est traduit différemment dans la Torah et dans les prophètes, ce qui montre bien que là, les traducteurs des prophètes n'étaient pas les mêmes que les traducteurs de la Torah. Parce qu'en général, quand on fait une traduction, on adopte une expression, quand par exemple on faisait la traduction de la Colombe, on discutait ferme, par exemple, tel terme, on va le traduire comment ? Ben, comme si, comme ça, puis après, quand on avait fixé, on s'était tous mis d'accord, tout le monde s'y tenait, vous comprenez, pour que justement il n'y ait pas ce problème. On avait adopté de traduire un mot, par exemple, tel mot technique par tel mot français, tout le monde s'y tenait, tous les différents traducteurs s'y tenaient, pour que justement le lecteur ne soit pas dérouté et sache que finalement, dans le texte original, c'est le même mot qui revient ou la même expression qui revient chaque fois qu'on trouve ce mot français. Bon, c'est ce qu'on essayait de faire au niveau de la Colombe en particulier. Ça, c'était une des caractéristiques de la Colombe, traduire toujours le même mot hébreu par le même mot français. C'était notre principe. Bon, les Septante ne se sont pas tenus à ce principe-là. Chaque traducteur a été un peu laissé à sa fantaisie et traduisait un peu comme il avait envie de le faire. Par exemple, l'expression éternelle des armées est traduite par, dans la Torah par Kurios Pantocrator, le Seigneur le Tout-Puissant, en quelque sorte. Et puis, dans les prophètes, est traduite par Kurios Dunameon, le Seigneur aussi tout-puissant, mais c'est un autre mot en grec, si vous voulez. C'est, bon, le sens ne change pas, si vous voulez, mais il y a deux mots différents. Ça nous montre que là, il y a deux traducteurs différents. Hein. Alors, par exemple, le mot philistin. Ben, les Grecs ne savaient pas ce que c'était que les philistins, parce que les philistins avaient disparu depuis longtemps, n'en déplaise à M. Arafat. D'ailleurs, ça, c'était un argument aussi qu'on pourrait lui objecter quand il prétend être un descendant des philistins. C'est pas très flatteur pour lui, mais enfin bon. Alors donc, comment traduire philistin ? Ça ne veut rien dire pour un grec philistin. Eh bien, les Septante ont traduit par allophuloi, les étrangers, tout simplement. Alors, c'est très vague, bon, comme ça, c'est clair. Les allophuloi, les étrangers. Bon. Le mot esclave, éved, en hébreu, a été traduit de manière différente, soit par le mot doulos, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament également, paï, qui est un jeune esclave, un jeune enfant qui est esclave, ou encore thérapone. Donc trois mots différents pour rendre le même mot hébreu. S'ils avaient travaillé avec Jules Marcel Nicole, ce genre de choses-là, ça ne serait pas passé. Ça, on aurait discuté pour savoir lequel de ces trois mots on prenait. Et puis, on en serait resté là. Bon, ben, les Septante ont fait ça. Preuve, encore une fois, qu'on a affaire ici à plusieurs traducteurs différents. Alors, voyez-vous, c'est quand même très intéressant, quand on fait de la critique du texte, d'étudier ces différentes formes de traduction que les Septante ont donné de différents mots hébreux. Parce que ça nous montre finalement comment les différents traducteurs pouvaient comprendre le même mot, hein, la même expression hébraïque, et finalement lui donner parfois des petites nuances un petit peu différentes. Si vous voulez, c'est le même intérêt que celui qu'on a si vous, par exemple, qui ne connaissez pas les langues originales, hébreu et grec, vous avez différentes traductions de la Bible. Bon, vous prenez par exemple la Colombe, vous prenez la Bible de Jérusalem, vous prenez le français courant, vous prenez la Taube, etc. Vous comparez la traduction du même verset. Vous allez trouver des nuances, vous allez trouver des différences, un petit peu comme celles que j'ai évoquées là. Mais finalement, quand vous les comparez, vous vous rendez compte que ces différences-là ne se contredisent pas, elles se complètent. Et que finalement, en comparant ces différentes traductions, ça enrichit votre compréhension du texte biblique, parce que ça vous donne les différentes nuances possibles, les différentes compréhensions possibles de ce texte. Et c'est l'intérêt, justement, d'avoir dans une langue de nombreuses traductions, c'est que, justement, on peut les comparer entre elles, et sans connaître les langues originales de la Bible, on peut, finalement, cerner le sens profond d'un texte. Alors ça, c'est très, très important aussi. Bon, si en plus de ça, vous connaissez des langues étrangères, anglais, espagnol ou autre, et que vous avez des Bibles dans ces langues-là, ça peut vous apporter encore des nouvelles nuances fort intéressantes. Et on peut comme ça multiplier le travail à l'infini. Plus on connaîtra de langues, plus on aura ici la possibilité de cerner de près le texte biblique, à condition évidemment que ce soit pas ce soit un texte sérieux, une traduction sérieuse, qui ne trahisse pas le sens du texte, ce qui arrive de plus en plus, hélas, malheureusement, aujourd'hui. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que quand on a affaire à la version des Septante, pour des raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce que le texte n'a pas été cristallisé comme le texte hébreu, quand il y a des variantes par rapport à l'hébreu, c'est difficile de dire. Est-ce que ces variantes sont le fait des traducteurs eux-mêmes, c'est-à-dire des 70, ou de ceux qu'on appelle les 70, étaient-ils 70, ça j'en sais rien, ou bien finalement des copistes qui ont copié le texte par la suite. Ça, on ne peut pas être sûr, vraiment. Alors, ça complique encore le problème de la traduction des Septante. Alors, on peut, à ce moment-là, comparer avec les Targum. On peut comparer avec les versions araméennes, qu'on appelle Peshito, syriaque, si vous voulez. Un sigle de trois mots. Chachmenu, sirkonam le bracha. Nos sages, que leur mémoire soit en bénédiction. C'est-à-dire, justement, les commentaires des sages d'Israël. Et on voit que certains de ces midrashim remontent, finalement, rejoignent ce qu'on trouve dans les Septante. Ça, c'est une découverte tout à fait étonnante, ce qui montre bien qu'on a affaire avec la version des Septante à une première phase d'une targumisation primitive, c'est-à-dire d'une traduction-explication de la Bible. Et finalement, les Hébreux, dans la tradition hébraïque, alors si vous voulez, dans la traduction grecque, c'était inclus dans le texte, mais dans le targum aussi. Dans la traduction hébraïque, il y avait d'une part le texte qui était fixé, qui était cristallisé parce qu'il était saint, et puis à côté, on avait les commentaires qui étaient séparés. Et c'est très intéressant de voir que certains de ces commentaires, qui sont beaucoup plus récents, qui datent de l'époque du Talmud et même d'après, qui datent du Moyen-Âge, on trouve ça par exemple même chez Rashi, au XIe siècle, eh bien vous retrouvez chez Rashi au XIe siècle après Jésus-Christ des choses que vous retrouvez au IIIe siècle dans la version des Septante. L'extraordinaire fixité de la tradition orale. Ça, c'est quelque chose de formidable. Et à ce titre-là, les variantes qu'on trouve dans la version des Septante sont très importantes, très intéressantes pour une étude de la Bible. C'est pourquoi, si quelqu'un possède le grec, suffisamment pour pouvoir lire la version des Septante, c'est intéressant qu'il lise la version des Septante. Non pas pour qu'elle se substitue à la version hébraïque, à la version massorétique, et pour qu'elles viennent en complément. Vous comprenez ? Là, il y a une mine de richesse extraordinaire à ce niveau-là. Bon, vous avez aussi alors une langue particulière qui est la langue justement de Chazal, jusque dans le style. Alors, ça veut dire que la tradition hébraïque, la tradition d'Arachi, par exemple, la traduction des Midrashim qui date de l'époque des Gaonim, qu'on était en train d'étudier en ce moment, a une origine extrêmement ancienne, qui remonte au moins justement à l'époque des Septante, donc au IIe siècle de Jésus-Christ. Et finalement, comme l'a dit le professeur Krigel, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Jérusalem, déjà un certain nombre d'années, pourquoi ça ne remonterait pas finalement aux origines mêmes du texte ? C'est-à-dire que ça nous montrerait la manière dont les hommes de l'époque de la Bible ont compris leur texte. Alors, ça veut dire que dans leur compréhension, ils n'étaient pas obligatoirement infaillibles, c'est évident. Et cette compréhension qui est la leur doit être critiquée. Mais enfin, ils étaient plus proches de nous que l'événement. Ils étaient proches plutôt de l'événement que nous. Et par conséquent, la manière dont ils ont compris cet événement, dont ils étaient quasiment contemporains, doit nous interpeller et nous dire, attention, est-ce que notre compréhension de la chose est toujours juste à nous qui vivons des siècles, des dizaines de siècles après. Alors, vous voyez, il y a tout un travail ici extrêmement important à faire dans ce domaine-là. Il y a de très très nombreux points communs, justement, entre la littérature de Chazal, c'est-à-dire la littérature des commentaires juifs, et puis du Moyen-Âge, et puis la version des Septante. Bon, ce texte, nous l'avons vu, il s'est surtout répandu en diaspora. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des équivalents aussi qui ont été adoptés par les Septante. Ce n'était pas toujours facile pour eux de trouver des équivalents. Et la plupart de ces équivalents, ce qui est intéressant selon les spécialistes, c'est qu'ils avaient déjà été découverts dans les siècles qui avaient précédé. Et parfois, il a fallu forger des mots nouveaux. Par exemple, le mot circoncision, mila, en hébreu. Les Grecs ne savaient pas ce que c'était que la circoncision, ça n'existait pas chez eux. Bon. Finalement, les Septante ont fait de l'anatomie. Et puis, ils ont traduit tout bêtement, si vous voulez, avec beaucoup de réalisme, alors que le mot hébreu est beaucoup plus spirituel, si vous voulez, que le mot grec. On trouve aussi des problèmes, par exemple, pour le nom de Dieu. Le nom de Dieu, le tétragramme. On ne peut pas le prononcer, le nom de Dieu. Comment ? On ne peut pas le traduire en grec. Ce serait une profanation épouvantable que de le traduire en grec. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Les Septante ont fait ce que, finalement, les Juifs qui lisent le texte à haute voix font toujours. Ça veut dire que là où on trouve le nom de Dieu imprononçable, qu'on ne doit pas prononcer car il est écrit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain », on le remplace par Adonai, le Seigneur. Et partout où ils ont trouvé le nom qui, dans nos versions françaises, est souvent traduit par l'Éternel, les Septante ont remplacé ce mot par « Okurios », le Seigneur. Ce qui est exactement la traduction grecque du mot « Adonai », le Seigneur. Bon. Autre traduction avec laquelle ils ont patiné, parce que ce n'était pas quelque chose qui était évident, c'était le mot « la Torah ». La Torah, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un mot qui n'est pas facile à traduire. Et finalement, qu'est-ce que c'est la Torah ? C'est l'enseignement, ce qui est lancé, ce qui vient féconder. Enfin, c'est très riche, on ne peut pas traduire ce mot. Et finalement, les Septante ont dû se creuser la tête pas mal, puis ils ont traduit par un mot qui n'est pas extraordinaire. Là, des fois, ils tapaient à côté le mot nomos, la loi. Et ça a été malheureux comme choix. C'était un choix malheureux de leur part. Parce que ça a été réducteur. C'est vrai que dans la Torah, il y a une partie légale, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'une loi, la Torah. Et finalement, pour les lecteurs de la Septante, la Torah, c'était la loi. C'était quelque chose de légal, c'était quelque chose de juridique. Et finalement, ça a laissé dans l'esprit même du lecteur français moderne, parce que finalement, on a traduit le mot Torah, on ne s'est pas cassé la tête, on ne s'est pas surmené quand on a traduit la Bible en français. Puisque les Septante avaient fait le travail, on en a suivi bêtement. Bon, Olivetan et finalement ceux qui sont venus après ont eu le génie de traduire le mot Adonai par l'Éternel. C'est génial. Moi, je trouve qu'il faut garder cette traduction. Mais ils se sont beaucoup moins surmenés quand ils sont arrivés au mot nomos, au mot Torah. Ils ont gardé le mot loi. Parce que les Septante avaient fait le travail avec eux, ils n'avaient pas envie de s'embêter. Bon. Aujourd'hui, quand on traduit la Bible en français, on garde un petit peu cette ornière-là. À mon avis, ce n'est pas toujours la meilleure chose que l'on fait. Ouais. Alors, vous voyez, là, il y a eu un travail tout à fait intéressant qui a été fait. Bon, par exemple, aussi le mot d'avare, la parole. Ça, c'est très parlant dans la Bible. La parole de Dieu. Voilà. Eh bien, les Grecs, les Septante avaient à leur disposition un concept grec qui est un petit peu différent, justement, du mot hébreu. Du mot d'avar, parce que d'avar en hébreu, c'est non seulement la parole, mais c'est aussi l'action. Il n'y a pas de différence entre la parole et l'action en hébreu. Parler, c'est agir. Et logiquement, notre parole doit se traduire par des actes. L'homme se met tout entier dans sa parole. Mais les Grecs avaient une notion qu'ils avaient héritée de leur philosophe, c'était la notion du logos. Et on a traduit le mot d'avar par logos. Et vous retrouvez ça dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, le logos. Et là, au contraire, c'était quelque chose de très riche. Je dirais presque même de plus riche que le mot d'avare dans un certain nombre de domaines, au moins complémentaire. Et par exemple, Nicée, vous savez, la fameuse formulation Nicée qu'on lit le dimanche, le Fils incarné, etc. Bon, c'est beaucoup, on a beaucoup, les pères de l'Église ont beaucoup réfléchi sur le mot du logos, sur le sens du logos. Philon d'Alexandrie, qui n'était pas chrétien, qui était un penseur juif, avait déjà fait l'assimilation entre le davar et le logos, et finalement on est parti des travaux de Philon d'Alexandrie à Nicée, justement, pour élaborer la fameuse formule de Nicée, le Fils consubstantiel au Père. Parce que justement, il était la parole de Dieu, était le logos de Dieu. Logos avec un L majuscule. Alors voilà quelques exemples, voyez-vous, des difficultés de traduction auxquelles se sont heurtées les Septante. Alors parfois, cette traduction, elle ajoute quelque chose, parfois elle retranche, nous avons vu. Bon, ça c'est le risque de la traduction. Toute traduction fait ça, on ne peut pas faire autrement. Là, ce qui est intéressant, c'est quand le Nouveau Testament reprend ce que la Septante a ajouté pour lui donner la sanction de l'inspiration. Dans le cas du Logos, par exemple, dans le prologue de l'Évangile de Jean, c'est ce qui se passe. Finalement, le Logos, tel qu'il est défini, est plus une notion grecque qu'une notion hébraïque. Mais finalement, le Nouveau Testament la sanctionne. Par conséquent, nous pouvons l'adopter. Par contre, le Monomos, comme je disais tout à l'heure, bon... Et c'est un petit peu là aussi que venait l'ambiguïté, par exemple, vis-à-vis des Galates, Paul est obligé de rectifier, il dit, ben oui, mais la loi, mais d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'entendre. Il explique ça aussi à Timothée, il dit, ben la loi, oui, d'accord, bon. Et là, il y a des ambiguïtés qui naissent justement de ce que les Galates ou les Corinthiens ou les Romains lisent la Bible dans la version des Septante. Alors, parfois, bon, ça pose un certain nombre de problèmes quand c'est réducteur, justement. Plus tard, nous aurons une autre version grecque de la Bible, qui sera la version d'Aquilas. Aquilas est un païen qui s'est converti au christianisme, puis ensuite, du christianisme, il s'est converti au judaïsme. Et à l'époque talmudique, lorsque la Bible, ou à l'époque mishnaïque plutôt que talmudique d'ailleurs, c'est pas quand la Bible des Septante est devenue la Bible des chrétiens, et les chrétiens en font un usage important dans leur apologétique vis-à-vis du judaïsme, les juifs disent on ne peut plus lire la Bible des Septante parce que c'est la Bible des chrétiens. Alors on a besoin d'une Bible en grec, il faut refaire une traduction de la Bible en grec à partir de l'hébreu. Et ils chargent donc cet Aquilas, qui est un prosélyte, de faire cette traduction. Alors il va faire un mauvais travail, cet Aquilas-là. Il va faire une traduction mot à mot, servile, finalement, qui est incompréhensible pour un grec. Et finalement, l'interprétatrice va être un coup d'épée dans l'eau. La version d'Aquilas ne transformera jamais, ne supplantera jamais la version des Septante. Alors on fait une autre tentative, quelques générations plus tard, avec un certain Théodotion, même échec, n'est-ce pas? Et finalement, aucune traduction ne parviendra jamais à remplacer la traduction des Septante, parce que la traduction des Septante, malgré ses limites, malgré ses imperfections, est un chef-d'œuvre et reste aujourd'hui, donc, à condition de la manier avec précaution, justement en connaissant les limites, eh bien, une source intéressante au plus haut degré pour l'étude de la Bible, comme j'ai essayé de le montrer. Voilà.